Bonsoir Amélie Perrier.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Looking for a president alors Amélie.
Oui, la campagne présidentielle se poursuit toujours aux États-Unis au lendemain du jour de l'élection. Les dépouillements vont durer encore. Si Donald Trump revendique la victoire, l'équipe de Joe Biden y croit encore aussi. Nous irons dans l'un des États où tout peut se jouer encore, le Wisconsin. On verra aussi que la bataille va se déplacer sur la scène judiciaire. Et puis le rôle des réseaux sociaux dans cette élection 2020. Twitter n'a pas hésité à ajouter des avertissements au message du président sortant. L'actualité ce soir, c'est aussi en France une épidémie de Covid galopante et des commerçants qui manifestent pour réclamer leur réouverture. Mais une étude scientifique fait aujourd'hui le lien entre la chute des déplacements et la baisse des hospitalisations. Et dans le cinéma, on trouve des alternatives à la fermeture des salles. Un film sort aujourd'hui sur Facebook, séance à ne pas manquer ce soir à 20h.
Et nous tâcherons de notre côté, Amélie, de vous donner des clés pour comprendre ce qui se joue maintenant aux États-Unis, les batailles juridiques en vue, les batailles d'experts, l'état de l'Amérique. S'il y a une chose sur laquelle personne ne s'est trompé, c'est bien la polarisation de ce pays. Nous échangerons avec nos invités. Vous entendrez la réaction de Douglas Kennedy notamment. Vous verrez comment Bernie Sanders a eu des propos prophétiques. Ça c'est pour la première heure. Et puis vos questions à partir de 19h20 sur cette démocratie américaine qui décidément sait nous réserver des surprises. Un téléphone sonne pour vous au 01 45 24 7000.
France Inter.
Et maintenant, l'attente.
Et absolument, l'attente, Amélie.
L'attente et la désunion des États-Unis. Les Américains revivent le même lendemain de vote qu'en l'an 2000 où ils ne connaissent pas le futur locataire de la Maison-Blanche à leur réveil. Donald Trump a revendiqué la victoire. Joe Biden y croit encore. Les électeurs se sont mobilisés massivement, participation record, d'où les dépouillements très longs dans la majorité des États-clés. On attend toujours le verdict en Pennsylvanie, dans le Michigan ou encore dans le Wisconsin où l'on retrouve notre envoyée spéciale, Rosalie Lafarge, à Milwaukee. Un état donc où Joe Biden a engrangé une légère avance ces dernières heures, Rosalie.
Oui, on a assisté à une bascule cette nuit. Joe Biden, devancé une bonne partie de la soirée par Donald Trump ici dans le Wisconsin, reprend finalement l'avantage. On est à 97% de bulletins dépouillés et l'État est en passe de redevenir démocrate, comme avant 2016 et la victoire surprise ici de l'homme d'affaires. Et ce retournement de situation, c'est une bonne nouvelle pour Joe qui a voté pour son homonyme.
He's not a jerk. I think it'll be far better for the environment.
Parce que ce n'est pas un imbécile, il sera meilleur pour l'environnement, pour les manières de l'Amérique, la politesse, et puis je peux continuer encore longtemps. Trump, lui, est un charlatan, purement et simplement.
I think he's a charlatan. Plain and simple.
Soulagement partagé par Barb, une autre démocrate de Milwaukee. Elle a eu peur en début de soirée. Ça va mieux maintenant qu'elle voit son candidat en mesure de s'imposer.
He's just a decent man.
Je crois que c'est un homme honnête et je pense qu'il est capable de nous rassembler.
Alors rien n'est encore définitivement acté ici. Je suis devant le bureau central où l'on a passé la nuit et la matinée à dépouiller grâce à des petites mains bénévoles pour la moitié d'entre elles. Et pour l'anecdote, le dépouillement dans l'État a pris un peu de retard à cause manifestement d'une cartouche d'encre. Une des machines s'est apparemment retrouvée dans l'incapacité d'imprimer pendant un petit moment. Il a fallu aller chercher des rechanges, mais tout a fini par rentrer dans l'ordre.
Rosalie Lafarge à Milwaukee dans le Wisconsin pour France Inter. Selon le décompte de CNN, Joe Biden mène donc en ce moment avec 224 grands électeurs contre 213 pour Trump. Rien n'est joué et les candidats au réveil y croient encore dur comme fer. Bonjour, bonsoir Grégory Phillips.
Bonjour Amélie.
On ne sait plus sur quel créneau horaire on est, mais Donald Trump, lui, il se réveille ce matin en tweetant. Là, c'est normal.
Oui, et les Américains se réveillent aussi avec ce tweet du 45e président des États-Unis qui écrit « Hier soir, je menais solidement dans de nombreux États-clés, presque tous dirigés et contrôlés par les démocrates. Puis, un à un, ils ont commencé à disparaître comme par magie à mesure que des bulletins de vote surprise étaient comptabilisés. Très étrange », écrit-il en lettres majuscules. Je précise que ce message a été immédiatement amendé, signalé avec un avertissement par Twitter, estimant que ça pouvait troubler le processus électoral. Donc, Donald Trump qui évoque l'apparition de bulletins surprises, immédiatement réaction du camp démocrate qui affirme au contraire que Joe Biden est en passe de l'emporter et que si Trump allait devant la Cour suprême, il risquerait une défaite embarrassante. Et puis on était dans le Wisconsin avec Rosalie tout à l'heure. À l'instant, la commission électorale du Wisconsin dit que ça y est, toutes les voix ont été décomptées et que Joe Biden remporte cet état avec 700 voix d'avance. C'est important parce que si Biden a effectivement le Wisconsin, ça le met dans une dynamique avec 10 voix supplémentaires au collège électoral, et il se rapproche petit à petit des 270 grands électeurs. Il va maintenant falloir attendre les résultats du Michigan, où le démocrate a 30 000 voix d'avance, et puis le Nevada aussi, mais le Nevada a décidé de recommencer à compter les bulletins que demain matin.
Merci beaucoup Grégory Phillips, et donc on rappelle cette information que vous venez de nous donner, le Wisconsin aurait donc été remporté par Joe Biden. Mais on le comprend, des avocats partout aux États-Unis fourbissent déjà leurs argumentaires. La bataille ne sera plus seulement électorale, mais elle risque de devenir judiciaire. Nous avons interrogé à ce propos un spécialiste de la Constitution américaine, Jean-Éric Brana de l'Université Paris-Assas.
Ce qu'il veut faire maintenant, c'est bloquer complètement le processus, empêcher que les votes soient décomptés pour qu'on se rapproche le plus possible de la date du 14 décembre. C'est le jour du collège électoral, le jour où ils se réunissent dans les différents États pour élire le président. Une fois que vous avez bloqué le processus, les contentieux ne sont pas terminés, tout signe à pas les grands électeurs le 14, à ce moment-là, ce serait non pas à la Cour suprême, mais au Congrès de décider le 6 janvier. C'est le Congrès, c'est le vice-président qui ouvre les enveloppes, qui vérifie la liste des grands électeurs, qui les valide, et ensuite qui annonce les résultats. S'il y a un souci, c'est au Congrès de décider qui est le président. Et par une procédure très particulière, qui est inscrite dans la Constitution, qui a déjà été utilisée en 1800 et en 1824, qui est que la Chambre des représentants élit le président sur la base de une voix par État. Et là, vous faites le décompte et vous vous rendez compte que Donald Trump a plus d'États que les démocrates, et donc il serait élu président.
Jean-Éric Brana, maître de conférence en droit américain à Paris-Assas, il répondait à Christian Chéneau. Donald Trump prétend avoir gagné, il le dit sur les réseaux sociaux, qui ne laisse pas faire, Grégory Phillips l'évoquait à l'instant. Twitter et Facebook étaient attendus justement au tournant lors de cette élection présidentielle. Le scrutin a généré plus de 570 millions de messages lors de cette année écoulée de campagne, dont près de 10 millions de messages ces dernières 24 heures. C'est 6 fois plus de tweets que lors du précédent vote en 2016. Et cette fois donc, vigilance accrue de la part des réseaux, y compris sur les comptes des candidats eux-mêmes, Olivier Bénis.
Et ils ont sévi à des degrés d'intensité divers. L'exemple le plus visible, c'est Twitter qui a ajouté à plusieurs messages de Donald Trump des avertissements précisant qu'ils étaient susceptibles d'être trompeurs. Le président sortant a l'habitude, depuis le mois de mai, il a droit régulièrement à ce petit panneau virtuel. Joe Biden, lui, a été suffisamment prudent pour ne pas s'attirer les foudres des modérateurs de Twitter. Sur Facebook et Instagram, qui appartiennent tous deux au groupe de Mark Zuckerberg, l'approche est différente. De nombreuses publications des deux candidats, quasiment à égalité, ont été assortis d'un message rappelant que le décompte des voix est en cours, il n'y a pas encore de candidat donné gagnant. Un traitement plus équitable a priori, mais qui, s'il ne dénote pas sous un message de Joe Biden invitant à garder la foi, contredit à l'inverse totalement Donald Trump lorsqu'il revendique la victoire. On peut enfin s'interroger sur l'efficacité de ces avertissements, sans doute ignorés par les supporters, quand ils ne les confortent pas dans l'idée que les réseaux sociaux censurent leurs candidats.
Olivier Bénis, France Inter, à l'heure américaine, on continue de vivre en direct ces résultats de la présidentielle aux États-Unis avec vous, Fabienne, dans Un jour dans le monde.
Et aussi dans le téléphone sonne, Amélie. En France, c'est l'épidémie de coronavirus et ses conséquences économiques qui occupent toujours la une.
Et les maires de nombreuses villes ne sauveront pas leurs petits commerces. Les arrêtés des élus de Béziers, de Perpignan ou encore de Lapte en Haute-Loire qui devaient autoriser l'ouverture de tous les commerces, y compris ceux non essentiels. Ces arrêtés sont suspendus depuis ce matin par différents tribunaux administratifs. D'autres maires n'ont même pas attendu la décision de justice. Ceux d'Issingeau, de Polignac, de Saint-Paulien ou de Langeac ont fini par retirer leurs arrêtés. En tout cas, beaucoup de commerçants se sentent sacrifiés aujourd'hui. Ils ont manifesté partout en France. À Bayonne notamment, ils étaient plusieurs centaines à l'appel de Cathy Guéguin. Elle tient une boutique de cosmétiques à Anglette.
Si on est tous mobilisés comme ça, c'est qu'il y a une vraie raison. C'est que l'heure est grave. J'ai l'impression qu'on nous sacrifie, en fait. J'ai entendu, moi, que Jean Castex se donnait 2 semaines pour revoir sa copie. Le vendredi 13 novembre, voilà, c'est le jour où il va annoncer les nouvelles mesures. Soit la prolongation, soit il lâche. Et on lui demande de lâcher, de nous laisser travailler. Ne serait-ce que en prenant des rendez-vous avec nos clients, pourquoi pas, ils peuvent nous appeler. On met tous en œuvre une autre façon de travailler, le click and collect, le drive-in, enfin peu importe. Mais nous, ce que l'on veut, c'est vendre nos produits qui sont entrés dans nos magasins, que l'on a payés et qui stagnent de maintenant. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire, parce que ça veut dire que c'est de la trésorerie qui va mourir. Et nous, on va mourir avec.
Cathy Guéguin, une commerçante au micro d'Iban Etchesareta de France Bleu Pays Basque. Des commerçants qui seront aidés, le gouvernement le promet. Il a présenté ce matin au Conseil des ministres un nouveau projet de budget rectificatif pour 2020, le quatrième depuis le début de la crise. 20 milliards de
d'euros débloqués pour cette deuxième vague de l'épidémie. Le gouvernement, victime d'un gros impair cette nuit à l'Assemblée, quand les députés de la majorité n'ont pas été assez nombreux pour voter la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février. Les oppositions l'ont ramené à la mi-décembre. Le porte-parole du gouvernement a minimisé aujourd'hui. Ce n'est qu'une simple péripétie politique, selon Gabriel Attal. En tout cas, les débats vont se prolonger à l'Assemblée pour définir la durée de cette prolongation de l'état d'urgence sanitaire. En tout cas, la situation ne s'améliore pas du tout dans les hôpitaux. Selon les derniers chiffres de l'application Tous Anti-Covid, le taux d'occupation des patients Covid dans les services de réanimation dépasse désormais les 80%. Pas encore d'effet du nouveau confinement, mais cela va peut-être venir si l'on s'appuie sur les leçons de la première vague. Justement, une étude menée par Vittoria Colizza de l'INSERM est pleine d'enseignements. Au printemps, grâce au téléphone portable des Français, elle avait pu mesurer une baisse des déplacements. La chercheuse poursuit l'étude aujourd'hui. Bonsoir Sophie Becherel.
Bonsoir.
Et elle veut mesurer l'incidence de cette baisse de la mobilité sur l'épidémie et sur le nombre d'hospitalisations.
Exactement. Formulée autrement, la question est, l'interdiction de se déplacer vaut-elle le coup? Après l'expérience du premier confinement, la réponse est oui. Les contaminations ont fortement chuté et la pression sur l'hôpital a en partie été levée grâce à la chute de 65% des déplacements au printemps. Pour chaque 1% de mobilité en moins, il y a eu 10 hospitalisations évitées par tranche de 100 000 habitants. Peut-on attendre le même effet avec un confinement moins strict? Trop tôt pour le dire, mais Vittoria Colizza, chercheuse à l'INSERM, a fait des projections avec différentes dates de mise en place du confinement et cela a son importance, a-t-elle montré.
On avait trouvé bien évidemment qu'avec une mise en place plus réactive, donc le plus tôt possible du confinement, on aurait gagné beaucoup dans les hospitalisations évitées. On a trouvé une réduction de pic attendu par rapport à la situation où on n'en fait rien, qui était autour de la moitié du nombre d'hospitalisations par jour. Et après, une descente de la courbe épidémique, ce qui, dans le cadre de à peu près 4 semaines, était capable de nous porter plus ou moins au moment de la mise en place du confinement.
Autrement dit, sans confinement, les hospitalisations auraient doublé en un mois. Avec ce confinement souple, il pourrait y en avoir 21 000 le 30 novembre, à peu près autant que vendredi dernier. Autant dire que les 4 semaines évoquées par le gouvernement ne suffiront pas à atteindre une jauge raisonnable pour les hôpitaux. L'exemple suédois, pas d'obligation de rester enfermé, seulement une incitation à moins bien fonctionner, selon Vittoria Colizza. Une fois encore, pour aider les soignants, on peut dire restez chez vous.
Merci beaucoup Sophie Becherel, spécialiste des questions de science.
Allez, on termine avec un conseil culturel, un film, même si les cinémas sont fermés.
Mais c'est un film qui aurait dû sortir en salle aujourd'hui, mais son distributeur n'a pas voulu jeter l'éponge. Il a eu cette idée originale, une séance spéciale à 20h ce soir sur Facebook. Le film s'appelle Basta Capital, c'est une comédie sociale qui met en scène des patrons du CAC 40, enlevés par un groupe de militants anticapitalistes. Corinne Pellissier a pu le voir en avant-première.
Vous êtes fous ou quoi ? Un plan si simple, ça marchera jamais. Vous allez tous vous faire buter, là.
La démarche n'est pas banale et le sujet du film encore moins. Un débat d'idées à mi-chemin entre le cinéma et le documentaire autour du rêve d'un nouveau système, sans course au profit, sans violence policière. Un monde débarrassé du capitalisme et pour lequel Pierre Zellner, le réalisateur, fait un certain nombre de propositions à travers un petit groupe d'activistes qui décident un jour, pour se faire entendre, d'enlever des grands patrons du CAC 40.
Bonsoir, monsieur le président. Si vous n'êtes pas encore au courant, je vous informe que nous avons enlevé et que nous tenons en otage les principaux patrons du CAC 40.
Une fable utopique, certes, mais une démarche ultra militante taillée pour susciter le débat.
Elle est vraiment conçue pour échanger. C'est un film qui parle énormément de la nécessité de la radicalité dans nos actions aujourd'hui, notamment face à l'urgence écologique qu'il y a. Alors l'urgence sociale, elle est là depuis longtemps. L'idée, c'était de voir comment monter un petit peu le curseur dans nos actions. Et donc, on parle de solutions, alors c'est quelque part extrêmement frontal, mais voilà, on se prend pas toujours au sérieux, c'est une fable. Et donc, il porte énormément la discussion, les échanges, les débats durent parfois plus de 2 heures. Moi, j'ai rarement vu ça à la fin d'un film.
On va faire la grève, voilà ce qu'on va faire.
Tu fais la révolution ou tu vends des fromages de chèvre ?
Droit d'entrée 5 euros, précision, information sur la page Facebook de Basta Capital.
Donc voilà, on sait ce qu'on fait ce soir à 20h, juste après votre téléphone.
Ah bah, juste après, s'il vous plaît, oui. Merci beaucoup Amélie, vous revenez dans un instant dans Un jour dans le monde, parce que soulignons-le quand même aussi, il y a des votes qui ont trouvé réponse aux États-Unis hier.
Il y a eu des votes sous les radars hier, plein de référendums dans plein d'États américains, je vous en parlerai. Il y a notamment une victoire de Uber, les VTC Uber en Californie.
Et bah on va s'arrêter là-dessus ensemble, à tout à l'heure Amélie, dans un instant avec Anne Désiné, aussi Douglas Kennedy, nous
nous allons tâcher de démêler un petit peu la plotte américaine. Et puis, dans le téléphone sonne, en deuxième heure, c'est votre tour. Vous êtes les bienvenus avec vos questions autour de ce vote et cette démocratie américaine au 01 45 24 7000. L'œil sur le ciel.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et Sébastien Léas, du soleil après la grisaille.
Oui Fabienne, la journée se passera généralement sous le soleil demain, mais il faudra souvent un peu de patience pour retrouver le ciel bleu à cause des nombreux brouillards et nuages bas qui se formeront en cours de nuit et au lever du jour. Ces grisailles disparaîtront le plus souvent en cours de matinée, mais quelques plaques pourront maintenir un ciel chargé l'après-midi, notamment sur la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais. Entre l'Auvergne, le nord de Rhône-Alpes et le Jura et sur les côtes des Pyrénées-Orientales et de l'Aude, le ciel restera également bien nuageux demain après-midi. À noter aussi un peu de vent sur le midi toulousain.
Et Sébastien, encore des gelées quand même aussi la nuit prochaine.
Oui, à la faveur du ciel dégagé de la nuit, les températures vont chuter. Il fera encore frais demain matin. De nombreuses gelées sont d'ailleurs encore attendues au lever du jour, comme à Reims ou à Nevers. Demain après-midi, sous les grisailles tenaces et la moitié nord, les maximales resteront un peu sous les valeurs de saison. 7 degrés à Bourg-en-Bresse, 11 degrés à Nantes, à Cherbourg et à Mulhouse, et 12 degrés pour Rennes, Tours, Paris, Nancy ou encore pour Besançon. Mais sur le sud, on retrouvera une certaine douceur. 16 degrés pour Bordeaux et Perpignan, 18 degrés à Aurillac et à Orange, 21 degrés à Bastia et à Istres, et on ira jusqu'à 23 degrés du côté de Draguignan.
Sébastien Léas de Météo France. Merci beaucoup Sébastien. À tout à l'heure après 19h.